9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Et si les séries françaises étaient à la conquête de la planète après le succès mondial de Lupin, HPI, 10%, le bazar de la charité, voici que les combattantes qu'on avait découvertes sur TF1 à l'automne sont en train de gagner la bataille de Netflix depuis la mise en ligne le 19 janvier. En 10 jours, la série a cumulé presque 55 millions d'heures de visionnage et le succès s'accélère. Du 23 au 29 janvier, on est précis, elle est la troisième série non anglophone la plus visionnée avec plus de 30 millions d'heures. Comment on peut expliquer ce succès? Et d'une manière générale, pourquoi les fictions françaises s'exportent-elles de mieux en mieux? Peuvent-elles conquérir le monde à la manière, par exemple, de la Casa des Papel? Bonjour Iris Bucher.
Bonjour Philippe.
Vous êtes l'heureuse productrice des combattantes chez Quad Drama. Vous avez produit plusieurs séries qui sont devenues des succès nationaux puis mondiaux, comme Le Bazar de la Charité, Vortex, le titre des combattantes en anglais.
Women at War.
Et il y a d'autres titres.
Oui, en allemand, ça donne Die Kämpferinnen, par exemple.
Et en espagnol?
Alors là, je sèche.
Las combatientes.
Las combatientes.
Je suis impressionné. Cet accent parfait, c'est celui de François-Pierre Pélinard-Lambert. Vous êtes le rédacteur en chef du film français.
Bonjour.
Film français, mais accent allemand parfait. Bienvenue dans Culture Média, c'est la première fois que vous venez. Vous allez nous aider à décrypter le succès des combattantes et pourquoi les fictions françaises commencent à se distinguer sur le marché mondial. Iris Bucher, vous étiez venue nous voir à l'automne, juste avant la diffusion des combattantes sur TF1. Le bilan de la diff sur TF1, en linéaire et tout chiffre confondu.
Le bilan était très bon. On était arrivé à 7 millions à J plus 30, comme on dit, donc avec les replays.
Vous attendez un tel score?
On l'espérait, je vais dire, parce que c'était un peu la, entre guillemets, suite du Bazar de la Charité, parce qu'on avait repris le même casting plus, donc Sophia Essaïdi, avec qui j'étais venue chez vous. Et oui, effectivement, on espérait un gros succès, et ça a été le cas.
On va entendre la bande-annonce, et après je vous demandais de quelle manière vous avez pris, endossé ce succès sur Netflix. Les combattantes, bande-annonce, pour se mettre dans l'ambiance.
Mes chers compatriotes, l'esprit de domination est venu menacer la liberté des peuples.
Tous les hommes sont mobilisés et la guerre est partie pour durer.
Les Allemands !
Vous voulez faire quoi à côté de la ligne de front ?
Je viens travailler. J'ai besoin de vous. De vous toutes. Que dois-je faire ? Je suis sûre qu'ensemble on va faire de grandes choses.
Les combattantes, c'est la bande-annonce en français qu'on vient d'entendre. 55 millions d'heures de visionnage sur Netflix en 10 jours seulement. Même question, est-ce que vous attendiez ces chiffres sur Netflix avec de la fébrilité ou est-ce que c'est la cerise sur le gâteau? Dans tous les cas, on est heureux. Comment vous avez appréhendé ces chiffres?
Là, on peut parler de cerise sur le gâteau quand même. On espère toujours que le plus grand nombre regarde ce qu'on met quand même 3 années à fabriquer avec énormément de gens, beaucoup de d'énergie, de talent à tous les endroits. Donc oui, c'est un espoir qu'on a et quand il s'avère qu'on n'a pas fait tout ça pour rien mais qu'il y a vraiment un accueil assez fabuleux à travers le monde, c'est formidable.
Alors je vais dire d'un mot, c'est le destin de 4 femmes, les combattantes pendant la Première Guerre mondiale, une prostituée jouée par Audrey Fleurot, une infirmière jouée par Camille Lou, une bonne sœur campée par Judith Bonnat et une bourgeoise qui s'émancipe jouée, elle, par Sophia Essaïdi. Il y avait une dimension militante dans cette fiction. Est-ce que selon vous, ça a participé au succès de la série ?
Je pense, tout à fait. Pour moi, il y a 2 choses qui peut-être peuvent expliquer ce succès. C'est à la fois l'universalité du sujet, parce qu'on parle de la guerre, la Première Guerre mondiale.
Et la guerre mondiale, pardon, de ce pléonasme.
Bien sûr.
Et Netflix, c'est un réseau mondial.
Donc à la fois cette universalité, mais aussi la particularité du prisme, du point de vue. Parce que, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on embrasse cette thématique de la guerre du point de vue féminin. Presque exclusivement féminin. Et donc, effectivement, ce sont des destins de femmes. C'est militant dans le sens où on parle d'émancipation, des femmes qui prennent leur destin en main, qui arrivent à surmonter toutes sortes d'obstacles.
Toutes sortes d'obstacles, point. je vous aide à terminer votre phrase. François-Pierre Pélinard-Lambert, je rappelle, vous êtes rédacteur chef du film français. La question qu'on se pose, on va prendre de la hauteur. Est-ce que les combattantes et un succès français qui cartonne sur Netflix, c'est la belle histoire ou est-ce que ça devient une habitude?
Alors, je ne vais pas dire que ça devient une habitude, mais en tout cas, on est au-delà de la belle histoire. On est maintenant dans une histoire à nombreux chapitres. Parce que ça fait quand même 7-8 ans que la fiction française se distingue. Alors, avant, c'était très marqué par rapport à des séries spécifiques. Il y a eu le phénomène autour des Revenants, Il y a eu un phénomène autour d'Engrenage, qui ont été des séries qui ont vraiment eu un écho absolument énorme. Et je pense que le fait que Audrey Fleurot soit dans HPI, qui est maintenant la série française la plus exportée aujourd'hui, qu'elle ait été également dans Engrenage, c'est évident que ça a aidé. Et la chose qui est intéressante aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus sur uniquement une série. On est sur un phénomène plus global de séries dans tous les genres qui voyagent. L'an dernier, Unifrance, qui s'occupe de l'exportation de la fiction, a publié ses chiffres 2021, parce qu'il y a toujours un décalage. Mmh. On était à plus de 110 millions d'euros de ventes à l'international et on était à 25% au-dessus de l'année précédente. Et on pense qu'on va encore être à 25, voire 30 l'an prochain. Et je pense qu'en dehors de la qualité et de la variété des productions, parce qu'il y a des séries comme Les Combattantes avec des gros budgets, du grand déploiement qui se vendent, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des séries dont on parle peut-être moins, mais Candice Renoir est une série qu'on voit partout dans le monde. Des collections comme Les Meurtras ou Les Crimes, avec parfois certains qui se pincent un peu le nez, c'est des séries qui correspondent à des besoins de certaines chaînes. Et par exemple, il y a une chaîne qui est spécialisée dans le polar exotique au Japon, et la série qui marche le mieux, c'est Les Crimes et Les Meurtres A. Mmh. Et on a du mal à imaginer que des Japonais se passionnent sur ce qui se passe à Carpentras. Ouais. Mais c'est pourtant le cas. Donc,
je vous interromps cette chaîne dont j'ignorais l'existence jusqu'à cet instant et je vous remercie. C'est peut-être un marché de niche. Peut-être que les gens qui regardent des polars au Japon sur cette petite chaîne spécifique, même si vous êtes le premier d'une chaîne de niche. C'est pas comme être le troisième sur Netflix.
Alors, oui, alors moi, j'ai tendance à être un peu contre une Netflixisation des esprits.
Expliquez.
Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a Netflix, Amazon, Apple et basta.
D'ailleurs pour ça qu'on a fait le sujet aujourd'hui. Hein.
Voilà, mais ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que, et ça aide également la visibilité des séries, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de plateformes dans le monde entier. Il y a des plateformes qui ouvrent tous les jours. Et ces programmes et ces plateformes, elles sont soit niches, soit, en plus de ça, la particularité. Aujourd'hui, quand vous avez M6 qui se décline en M6 Play, quand vous avez TF1 qui se décline en MyTF1, c'est le cas de toutes les chaînes classiques aussi. Et elles ont besoin de contenu. Et comme elles ne trouvent pas ces contenus très souvent chez les Américains, parce que maintenant les Américains ont leur propre plateforme, vous voulez du Disney, vous allez voir du Disney. Il y a beaucoup moins de Disney qui circulent sur les autres programmes. Ben, il faut aller chercher des programmes. Et la France fait partie des pays qui sont capables de répondre à cette demande. Donc, visibilité accrue.
Iris Boucher, vous confirmez, il y a des chaînes de Taïwan qui vous appellent sur des niches spécifiques.
Absolument, des chaînes ou des plateformes du monde entier. Et ce qui est bien avec la niche, c'est une niche, c'est petit, certes, mais si vous faites de la niche dans plein de pays, vous arrivez à des chiffres comme François Pierre vient de le dire. Et il y a aussi le volume, en fait. On a beaucoup augmenté le volume de production en France. On est passé de presque 1000 à 1500 depuis un an maintenant, d'heures produites de fiction.
Et tout producteur confondu.
Absolument. Mmh. Et toutes chaînes confondues. Et c'est ce volume aussi qui nous permet de mieux exporter. Quand tu parles de la collection des meurtras, il y a aujourd'hui à peu près 70 unitaires meurtras, donc partout en France. Hein. Et pour les chaînes à l'étranger, c'est très important d'avoir du volume pour pouvoir nourrir une case du dimanche soir ou du samedi après-midi, un rendez-vous.
Quand vous parlez avec des producteurs étrangers ou des diffuseurs, est-ce qu'il y a un label France comme à un moment donné, tout le monde voulait du polar danois ou comme dans les vins de Bordeaux, il suffit qu'ils viennent de Bordeaux, même s'il n'est pas du niveau de la production bordelaise, il se vend quand même. Est-ce qu'il y a un label France? Est-ce qu'on vous achète parce que vous êtes français?
Ça commence parce que les productions de ces 5 dernières années ont montré que l'ambition était là, la qualité était là. Et ce qui est intéressant aussi, on en parle moins, mais c'est que nos histoires passionnent. Et nos histoires dans le sens remakeable du terme. C'est-à-dire, on achète nos histoires et on fait des versions. Par exemple, il y a une version contemporaine turque du Bazar de la Charité. Ça a été remaké en Turquie.
Vous allez nous expliquer comment c'est possible, puisque le Bazar de la Charité, il a brûlé à Paris. Donc il lui fallu qu'un bazar
19e.
Brûle fin 19e à Istanbul. Comment est-ce possible? Iris Boucher va nous le dire. Elle est avec François-Pierre Pélinard-Lambert. C'est le rédacteur-chef du film français. Culture Média continue, à tout de suite. On parle avec François-Pierre Pélinard-Lambert. C'est le rédacteur en chef du film français, du succès des séries françaises à l'étranger qui se dessinent de plus en plus, notamment Les Combattantes qui avaient cartonné sur TF1 et qui marchent très 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 bien sur Netflix. On est avec Iris Boucher, vous êtes la productrice chez Quad Drama des Combattantes. Vous parliez aussi du remake, c'est non pas les gens qui vous achètent la série telle que, mais par exemple des Turcs qui vous ont racheté le Bazar de la Charité. Je rappelle que c'est l'histoire d'un incendie dans Paris au 19e siècle. Et ils le refont, ils le refabriquent, ils réinventent l'histoire qui se passe en Turquie ou qui se passe en France. Comment ça se passe?
Qui se passe en Turquie avec des acteurs turcs. Et ce qui était étonnant, c'est qu'ils l'ont pris tel quel quasiment, et l'ont fait en version contemporaine. Ce qui en dit long aussi sur la situation, la condition de la femme en Turquie, parce que par exemple, le rôle à l'époque, interprété par Audrey Fleurot, complètement sous la coupe de son mari Gilbert Melki, vous pouvez tranquillement refaire ça en Turquie aujourd'hui, ça marche très bien. Et d'autres, ils ont vraiment fait un gros travail d'adaptation, certes, mais toutes les lignes narratives, les destins sont les mêmes. Et ça a été très bien fait, même d'un point de vue qualitatif, production.
Ouais, et dans ce cas, c'est comme 10% qui a été refait, qui a été vendu dans le monde entier.
Exactement.
Mais qui a également été refait avec des acteurs du cru, évidemment. Évidemment, dans ce cas-là, on touche des droits d'auteur qui ne sont pas les mêmes. J'imagine que c'est un achat pur et simple.
Alors, les droits d'auteur sont pour les auteurs. Les droits de format, c'est moi qui les vends, en fait, à travers la société de distribution qui a le mandat. Et c'est pas du tout les mêmes prix, bien sûr, mais c'est quand même une source de revenus, maintenant devenue non négligeable.
On peut aussi coproduire, par exemple, dans le cas de la version anglaise de 10%, l'équipe française était coproductrice. En revanche, il y a maintenant sur Sky en Italie une version italienne de Sky, et là pour le coup c'est
de
10%, et pour le coup là c'est une production italienne avec le même principe que racontait
Iris. Quand on voit les par exemple les séries ou les combattantes sur Netflix en anglais, en allemand ou en italien, qui s'occupe des voix anglaise, allemande, italienne? Est-ce que c'est des boîtes de production locales? Est-ce que c'est Netflix qui chapeaute tout ça? Est-ce que c'est vous-même? Comment ça se passe?
C'est Netflix qui a des antennes partout dans le monde et qui gère la synchronisation, ce qui est parfois un peu malheureux parce que dans Les Combattantes, il y a un rôle interprété par un comédien allemand qui s'appelle Pascal Audus, qui parle très bien français, ce qui lui a permis de à la fois jouer en français mais quand même être véritablement allemand avec un petit accent. Et il m'a envoyé un petit message, il était déçu parce que son rôle a été doublé par quelqu'un d'autre. Donc Netflix n'a pas fait appel à lui pour son propre rôle. Donc il s'est entendu dans sa langue maternelle, l'allemand.
Ils ont resynchronisé l'allemand dans
l'allemand
qui parle parfaitement.
Oui.
Voilà, c'est comme
Mais je pense qu'ils ne se sont pas posé la question. Il y a une série à synchroniser ou à sous-titrer dans toutes les langues. Je pense qu'il y en a au moins 27. Et ils ont des équipes en place partout avec des comédiens attitrés.
Alors dès le départ, Les Combattantes avaient une double dimension internationale et nationale. Les Combattantes, c'est coproduit par TF1 et Netflix. Dans quelle proportion? 10-90, 50-50, 70-30?
J'avais besoin des deux, je vais le dire comme ça, pour produire la série.
Mais
c'est TF1 qui est majoritaire, clairement.
D'accord. Alors comme j'ai posé une question gênante, je vous la pose à vous, François-Pierre Pélinard-Lambert. En général, c'est quoi la proportion de Netflix, TF1, de production internationale?
Parce que je suis devant la productrice,
oui.
Mais normalement, on va dire, on est dans les moyennes entre 80-20 ou 80-10. Mais l'important, c'est que la chaîne française est le lead artistique. Et voilà, et que c'est vraiment une série.
Ça allait être la question suivante.
Voilà, c'est une série, mais c'est parce que c'est la grande question.
Évidemment.
Et vous allez le voir de plus en plus. Par exemple, dans quelques semaines, France Télévisions va proposer Amazon va proposer une série qui s'appelle Cœur Noir.
Vous savez quoi? On reçoit son réalisateur dans quelques instants. Extraordinaire série que j'ai vue hier.
Avec Amazon. Et donc, il va y avoir une sorte de jeu de fenêtre entre d'abord sur Amazon, ensuite sur France Télévisions. Après, ça repartira sur Amazon dans le monde. Et c'est des vraies questions aujourd'hui où, pour avoir des séries de catégorie internationale, c'est vrai que l'apport de Netflix a été important parce qu'il a aidé à apporter une valeur de production encore supérieure à ce que tout le monde souhaitait. Et évidemment, l'important aussi, c'est de savoir qui est-ce qui a le lead artiste. Et dans le cas précis, c'était TF1.
Ziad Doueri, le réalisateur de Baron Noir, qui sera avec nous. De Baron Noir, et cette fois-ci de Cœur Noir, parce qu'il a fait les deux premières saisons de Baron Noir, qui sera avec nous.
Et Cœur Noir, en effet, c'est remarquable.
Justement, et comment ça se passe quand vous faites les réunions? Il y a des réunions quand on produit avec la chaîne. Qui a le lead? Qui donne le final cut avant de commencer à tourner?
Netflix n'intervient pas du tout. Il se prononce sur un projet, sur des scénarios ou un casting. Mais ils n'interviennent pas. Ils disent oui, on y va, non, on n'y va pas. Mmh. Après, c'est une question de négo financière qui est menée donc, par le distributeur. Mais à aucun moment, ils interviennent ni sur l'écriture, ni sur le choix de casting, ni sur rien. Ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on appelle les Netflix Originals, où en tant que producteur, on travaille avec les équipes de Netflix ici à Paris. Et on travaille avec eux, comme on travaille d'ailleurs avec Anne Viau, Solène Bouton du côté TF1 sur Les Combattantes. C'est-à-dire ce sont nos partenaires qui accompagnent tout le processus de développement de production et de post-production d'ailleurs. Mais dans ce cas-là, nos partenaires sont les gens de Netflix.
Je me tourne vers François-Pierre Pélinard-Lambert. Est-ce que le public des plateformes a aboli les frontières ? Je veux dire le sens de ma question. Au cinéma, un film français a peu de chances de cartonner à l'international. Ça arrive, mais c'est une exception. Est-ce que dans les séries, la chose est différente ? Est-ce que tout le monde part sur la même ligne de départ, comme on peut se passionner pour La Casa de Papel, une petite série espagnole ?
Globalement, oui. Et ce qui est toujours intéressant, c'est que malgré tous les algorithmes possibles de la Terre, par exemple, Squid Game, personne n'imaginait, ou même au sein de Netflix, que la série aurait cet écho-là.
Même en Corée. C'est une série coréenne.
Voilà. Et j'ai toujours cet exemple de La Casa de Papel, qui est à l'origine une série de l'équivalent d'M6 en Espagne, qui a été achetée, qui n'avait pas marché en Espagne, qui était une série formatée à l'espagnol avec des épisodes de 70 minutes et pas avec la même dramaturgie. Et Netflix a vu le résultat, il a racheté les droits, il s'est dit il y a quelque chose à faire, mais on va tout remonter. Et ça a été la surprise de voir comment d'un échec, entre guillemets, parce que ça avait été un échec, c'était une série coûteuse, ça avait été un échec en Espagne, c'est devenu un succès mondial. Et alors ça, on a beau essayer de les mettre en avant, d'avoir toute la promotion, c'est le grand mystère et l'aliment des étoiles. Ça, jusqu'à preuve du contraire, on reste dans le prototype.
Voilà. Est-ce que vous avez des séries comme La Casa de Papel dont vous dites, oh là là, on est passé à côté d'un succès, il faut la remonter, je vais la reproposer. Est-ce que vous avez ça en stock chez Quad Drama, Iris Boucher ?
Pas en version finalisée, parce que je ne peux pas, avec mes fonds propres, produire toute une série. En revanche, ce qui arrive souvent, c'est d'avoir des projets écrits qui ne trouvent pas acheteur à un moment donné et qu'on repropose plus tard. Ça a été le cas de Vortex, par exemple, qui est passé sur France 2 en janvier.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je suis ravi que les séries françaises s'exportent. Iris Boucher, vous êtes la productrice, l'heureuse productrice, c'est comme ça qu'on dit, des combattantes chez Quad Drama. François-Pierre Pélinard-Lambert, vous êtes l'heureux rédacteur en chef du film français.
Merci.
Ça marche bien le film français, c'est aussi une émission média.
Vous savez, ça marche bien.
Je réalise qu'on ne vous a jamais reçu, on n'a jamais parlé du film français dans cette émission et c'est une invitation que je lance. Merci d'avoir été avec nous en direct.